D'accueillir ce matin Michael et Ruth, voilà, ils sont jeunes mariés. Voilà, donc Michael sert le Seigneur à Toulouse, il est collaborateur avec Gérard Gault. Donc c'est lui qui nous apportera la parole, il était en vacances, mais j'ai dit c'est bien qu'on puisse entendre une voix. Voilà, que Dieu soit béni, je lui laisse toute la place. À toi Michael.
Voilà, bonjour à tous. Vous avez les bonjours de Monsieur Gault et de l'Assemblée de Toulouse. Et je suis heureux de passer ce moment avec vous. Et quelle grâce d'être dans la maison de Dieu. C'est vrai que ça fait, on est là depuis quoi, trois quarts d'heure. Et déjà, on se sent avec les frères et sœurs. Il y a cette unité de l'esprit. Et c'est vraiment une grâce. On est heureux d'être ensemble au pied du Seigneur. Et donc j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, s'il vous plaît. Évangile de Jean, au chapitre 15. Jésus va aller à la croix. Juste avant, il a lavé les pieds de ses disciples. Judas est parti pour vendre Jésus. Et il y a une exhortation qu'il donne à ses disciples, donc au 11. Et au chapitre 15, il va prendre une image. L'image du cep et des sarments, c'est ce qu'on va lire. À partir du verset 1er. Donc Jean chapitre 15, verset 1er. « Moi je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Les paroles de Jésus, et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, rien que sur ces quelques versets que l'on a lus. Mais au verset 8, Jésus va dire « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et je crois que le désir de beaucoup ce matin, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Ce qu'il soit mis en avant, c'est que quand on soit dans nos familles, ça soit Jésus-Christ qui soit mis en avant, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a fait dans nos chants, au travers des chants, c'est ce que l'on a fait au travers des prières et c'est ce que l'on veut faire au travers de notre vie. Et le moyen pour que le Père soit glorifié, c'est de porter beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Portez beaucoup de fruits. Et c'est le but de cette exhortation ce matin, c'est comment faire pour porter beaucoup de fruits. C'est quoi le fruit ? Le fruit d'un arbre, c'est la vie qu'il y a dans l'arbre qui sort au dehors. Je ne sais pas si vous vous promenez en hiver, des fois on voit des arbres, on se demande mais qu'est-ce que c'est que cet arbre-là ? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Moi, faire la différence entre un pommier et un poirier, je ne sais pas faire. Si je vois une pomme, je sais que c'est un pommier. Si je vois une poire, je sais que c'est un poirier. Vous voyez ? Mais l'hiver, je ne sais pas. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, à son fruit. Et c'est quoi ce fruit ? Vous connaissez ce texte dans Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ces choses-là que l'on est appelé à porter en abondance. Et c'est vrai que lorsqu'il y a ces choses qui sont dans notre vie, ça reflète le Seigneur Jésus. Mais si on est honnête, est-ce qu'on peut dire qu'on y arrive toujours ? Est-ce qu'on arrive toujours à porter beaucoup de fruits ? C'est pas évident, hein ? Porter du fruit, d'accord ? Porter beaucoup de fruits, ça c'est une autre histoire. Et on va voir, au travers de ce que Jésus va nous dire, au travers de sa parole, trois principes, alors il y en aurait beaucoup d'autres, mais ce matin on va voir trois principes qui vont nous montrer comment faire pour porter beaucoup de fruits. Vous êtes d'accord que Dieu ne fait pas de préférence. Si à un moment il nous donne les principes pour porter beaucoup de fruits, il suffit d'appliquer ces principes et on portera beaucoup de fruits. C'est assez simple, d'accord ? Donc ces trois principes que l'on va voir, il suffit de les appliquer. Et en les appliquant, alors nous pourrons porter du fruit. Alors le premier principe, on va le voir, c'est au verset 5 et au verset 4. Jésus va dire au verset 4, « Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. » Et au verset 5, Jésus va dire, « Car sans moi, vous ne pouvez rien. » L'image que Jésus va utiliser, c'est celle du cep et les sarments. Le cep, c'est le tronc, les sarments, c'est les branches. Jésus va dire qu'il est le cep, il est le tronc, et il va dire que le disciple, il est le sarment, il est la branche. La première chose, le premier principe que l'on peut voir, c'est que pour porter du fruit, oui, le fruit, c'est la vie qui sort du sarment, mais l'origine du fruit, elle est dans le cep. Un sarment tout seul, il ne peut pas porter de fruit. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas vous pouvez un tout petit peu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment, pour porter du fruit, il doit recevoir la vie. On ne peut pas faire sortir la vie éternelle, la vie de Jésus de nous, si on ne l'a pas d'abord reçue. Jacques dira que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Et Paul dira, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Je ne peux donner que ce que j'ai reçu d'abord. Un sarment ne peut porter de fruits que s'il est attaché au cep. Jésus dit, verset 4, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Et vous savez, le fruit, ce n'est pas mon œuvre à moi. Le fruit, c'est le résultat de la présence de Jésus dans ma vie. Ce qui fait que ma vie change, ce qui fait que mon caractère change, ce qui fait que ce que je suis change, c'est la présence de Jésus. Mais sans Jésus, il n'est pas possible de porter du fruit. Au verset 4, il est dit, le sarment ne peut de lui-même porter de fruit s'il ne demeure attaché au cep. Attaché au cep. Vous savez, Jésus ne dit pas s'il côtoie le cep, mais s'il est attaché au cep. Il y a une différence entre côtoyer Jésus et être attaché à Jésus. Beaucoup de personnes sont au contact de Jésus. C'est assez facile, en fait, de venir dans la présence de Jésus. On vient à l'église, une église où il y a la vie de l'esprit, on lit la Bible, on côtoie des gens qui sont spirituels, Jésus transparaît au travers de leur vie. On peut venir dans une église comme celle-ci, on peut ressentir la présence de Jésus, on peut savoir que c'est vrai, on peut voir Jésus agir dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre. On peut avoir reçu une bénédiction de Jésus, on peut avoir reçu une guérison, on peut avoir fait une belle expérience avec le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas ça être un disciple. Le disciple, ce n'est pas celui qui côtoie Jésus. Le disciple, c'est celui qui s'attache à lui. Et ce n'est pas pareil. parce que beaucoup de personnes peuvent côtoyer Jésus, et on peut côtoyer Jésus, être à toutes les réunions et venir dans la présence de Jésus sans pour autant s'attacher à lui. Et le salut, ce n'est pas côtoyer Jésus, le salut, c'est s'unir à lui. Jésus dira, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est vrai que lorsqu'on vient à Jésus, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait cette expérience, on vient dans sa présence, il y a une paix, il y a une joie, il y a un fardeau qui tombe, parce que c'est Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lorsque l'on s'approche de Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y a cette paix. Et si vous approchez de Jésus, que c'est la première fois, ou ça fait plusieurs fois que vous venez à Jésus-Christ, bah vous faites bien. Parce que Jésus, il donne la paix. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il donnera du repos. Mais ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est une chose de venir à Jésus, c'en est une autre de prendre son joug. Le joug, c'est quoi? C'était une pièce de bois qui servait à attacher deux animaux ensemble. Ce n'est pas que les animaux sont côte à côte, c'est qu'ils sont liés l'un à l'autre. C'est ça l'image du joug. Ce n'est pas venir à Jésus et s'éloigner de Jésus, c'est s'unir à lui. Si vous voulez, certains s'approchent de Jésus comme ça. Ils viennent à lui et ils repartent. Ils viennent à lui et ils repartent. Mais l'image du joug, c'est s'unir à Jésus, c'est faire comme ça. Il s'unit à moi, je m'unis à lui. Et on est attachés ensemble. Comme Ruth a dit à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai. » Son âme s'était attachée à l'âme de sa belle-mère. Au final, c'est ça, être sauvé. Ce n'est pas côtoyer Jésus, c'est s'unir à lui. C'est faire alliance avec lui. En d'autres mots, c'est quoi? C'est être en communion. Je ne peux pas porter de fruits si je ne suis pas en communion avec Jésus-Christ. La communion, c'est, si on inverse les mots, c'est l'union commune. Jésus s'unit à moi, je m'unis à lui. Et vous savez que pour qu'il y ait cette communion, ben ça a coûté cher. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il ne faut pas atteler deux espèces d'animaux sous le même joug ensemble. Et vous savez, pour que l'on puisse prendre le joug du Seigneur, ben il est venu à notre niveau. Dieu s'est fait homme. Et il nous a donné cette possibilité de s'unir à lui, de s'attacher à lui. Et la première chose qu'il faut que je réalise, c'est que ce n'est pas parce que je viens en réunion, ce n'est pas parce que je fais tel ou tel autre service, ce n'est pas parce que je viendrai même à toutes les réunions, c'est si je choisis de m'unir à Jésus-Christ, que alors, ensuite, je peux porter du fruit. Et au final, le plus important, ce n'est pas tant que le sarment porte du fruit. Le plus important, c'est que le cep porte le sarment. Parce que vous savez, être sauvé, ce n'est pas tant mes efforts à moi, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour moi. La Bible dit que c'est par la grâce que l'on est sauvé, c'est le don de Jésus, mais c'est écrit que nous sommes son ouvrage, avant de faire les œuvres préparées à l'avance. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et le plus important, ce n'est pas tant de faire les œuvres, c'est d'être son ouvrage. Le plus important, ce n'est pas que moi je fasse les choses pour Jésus, mais c'est que Jésus travaille en moi. Et c'est ça le fruit. Ce n'est pas moi qui produis la vie, c'est la vie de Jésus avec ma vie. Et lorsqu'il est dans une vie, lorsque je reçois sa parole, lorsque je reçois son Esprit Saint, alors, automatiquement, je porte du fruit. Je ne peux pas être en communion avec Jésus et ne pas porter de fruit. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec Jésus et que Jésus me laisse dans mon péché ou comme je suis. C'est quand je m'unis à lui et que je choisis de le suivre, qu'alors je suis transformé. Et lorsque je suis transformé, ce n'est pas moi qui suis meilleur qu'un autre, c'est Jésus qui a œuvré en moi. Et lorsque j'accepte Jésus dans ma vie et que je m'unis à lui, je peux dire que tous les progrès, la douceur, la paix, l'amour, la joie, toutes ces choses-là que je reçois, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre ou que je l'ai mérité, c'est par pure grâce, c'est parce que j'ai choisi de m'unir à Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Quand on s'unit à Jésus-Christ, que nous dit ce texte? Si on va par exemple au verset 7, il nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il nous est dit plusieurs fois dans ce texte qu'être uni à Christ, c'est garder sa parole. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. » Au verset 10, il leur dira « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Au verset 14, il va dire « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Être uni à Christ, être en communion avec lui, c'est aussi garder sa parole, recevoir sa parole. À quoi on reconnaît quelqu'un qui s'est uni à Jésus-Christ, qui a choisi de le suivre? Ben, il l'écoute. Quand on fait une alliance, comme un mariage par exemple, hein, on s'unit. D'ailleurs, c'est le même mot que le joug. C'est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Littéralement, c'est ce que Dieu a mis sous un même joug. C'est vraiment cette image-là, d'une alliance. L'un s'engage vis-à-vis de l'un, et l'autre vis-à-vis de l'autre. Et au final, ce qui fait que cette alliance, elle est gardée, ben, c'est la fidélité. Comment est-ce que je peux dire que j'aime le Seigneur, que je suis uni à lui, si je ne suis pas fidèle? Si je ne garde pas sa parole? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois infaillible? Non. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que sa parole me montre, eh ben je le règle. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait obstacle entre moi et Jésus-Christ, eh ben je le règle. Être infaillible, enfin être irréprochable plutôt, comme dit la Bible, ce n'est pas être infaillible. Être irréprochable, c'est à chaque fois que Dieu me montre quelque chose qui ne va pas, je le corrige. Et c'est ça, être en communion avec Jésus. Ce n'est pas être infaillible, mais c'est qu'à chaque fois que quelque chose vient mettre une séparation entre moi et Jésus, eh ben je le règle pour rester attaché à Jésus-Christ. Et si je demeure uni à Christ, si je garde sa parole, si je suis en communion avec lui, alors je peux porter du fruit. C'est la première chose. Pour porter du fruit, je dois être en communion avec Jésus-Christ. Sans communion, pas de fruit possible. Le sarment ne peut rien de lui-même. Il peut porter du fruit seulement s'il est attaché au cep. C'est le premier principe, la communion. La deuxième chose, pour porter du fruit, on va le voir au verset 3, ou plutôt au verset 2. Parce que le sarment est attaché au cep, il va porter du fruit, d'accord. Mais est-ce qu'il va porter beaucoup de fruits? Ben pas forcément. Pour qu'une vigne porte beaucoup de fruits, il faut qu'elle passe par quelque chose qui est un petit peu douloureux et délicat, qui s'appelle l'émondage. Parce que si une vigne, on ne l'émonde pas, ben ça devient en fait un buisson plein de feuilles et il y a très peu de fruits. Ou alors il y a énormément de grappes, mais qui n'arriveront jamais à maturité. Pour qu'une vigne puisse porter du fruit en abondance, elle a besoin d'être émondée. Au verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'émondage, c'est quoi? C'est quand on doit retrancher certaines choses, certaines parties du sarment, pour que ce sarment puisse donner du fruit en abondance. Vous savez, il y a deux types d'émondage. Il y a certains émondages, c'est quand c'est en train de pousser, il y a certaines parties du sarment qu'on doit couper pour que, au final, le fruit puisse arriver à maturation. Et des fois, il y a certains émondages, après que le sarment ait donné du fruit, qui sont un peu plus radicales. Je ne sais pas si vous êtes passé en hiver près des vignes. Ben les sarments, on ne les voit plus trop, hein, parce qu'il y a une coupure qui est assez radicale. Le sarment, il peut faire un mètre, il est réduit à une petite extrémité, avec trois petits bourgeons. Pourquoi? Parce qu'une vigne, elle peut donner du bon fruit que sur le bois de l'année. Le vieux bois, il ne peut pas porter de bons fruits. Si on laisse un sarment 2 ans, ben la deuxième année, il n'y aura pas beaucoup de fruits dessus. Il a besoin d'être émondé, parce que du bon fruit, c'est sur le bois nouveau, c'est jamais sur le vieux bois. De quoi ça nous parle, ces émondages? Les émondages, ça nous parle de ces moments où le Seigneur, il va couper. Il y a des moments où dans notre vie, il y a des choses qui peuvent être retranchées, que Dieu va enlever. Il peut y avoir des souffrances qui sont permises par Dieu, non pas parce qu'il ne nous aime pas, non pas parce qu'on a péché, puisque là c'est écrit à cause de la parole. Donc c'est certainement pas à cause du péché. Il peut y avoir des souffrances dans notre vie permises par Dieu, parce que Dieu désire que l'on porte beaucoup de fruits. Pas juste du fruit, beaucoup de fruits. Et ça c'est un principe biblique. On voit que tous les hommes qui ont voulu qui ont été utiles entre les mains de Dieu, qui ont porté beaucoup de fruits, dont on parle encore aujourd'hui, sont passés par des émondages. Vous pouvez l'appeler émondage, vous pouvez l'appeler brisement, vous pouvez l'appeler fournaise, vous pouvez l'appeler souffrance, vous pouvez l'appeler adversité, mais tous les hommes qui ont voulu être utilisés par Dieu, qui ont été utilisés par Dieu, sont passés par des émondages. On va prendre des exemples. Joseph, fils préféré de son père, clac, esclave, clac, en prison. Mais il est devenu prince en Égypte et il a sauvé sa famille. Émondé pour porter du fruit, pour bénir sa famille. On peut prendre Moïse. Moïse, il avait une certaine réputation en Égypte. Clac, au désert, pendant 40 ans. Mais il est revenu et il a sauvé le peuple. Dieu l'a utilisé pour sortir le peuple d'Égypte. Prenons l'exemple de Job. Alors Job, c'est l'émondage des émondages. Hein. Il a été raccourci à l'extrémité. Et pourtant, Job, aujourd'hui, c'est celui qui encourage des millions de chrétiens qui sont dans la persécution, qui sont dans la souffrance. Et il est devenu une source de bénédiction. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus-Christ, il a donné sa vie sur la croix pour devenir une source de bénédiction pour tous les hommes. Et nous, on pense souvent que pour porter beaucoup de fruits, vous savez, des fois, on entend des prédications, il faut développer son potentiel. Hein, c'est un peu du développement personnel. Mais le principe biblique, ce n'est pas vraiment celui-là. Jésus dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Et nous, des fois, on essaye d'enseigner aux gens à mieux vivre, alors qu'en fait, Jésus nous apprend à mieux mourir, à nous-mêmes. Attention, hein, à nous-mêmes, au péché, à ces choses-là. Et le principe pour qu'il y ait de l'abondance, c'est quoi? C'est au final ces souffrances, cette mort à soi. Et vous savez, là, c'est parler des souffrances, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas à cause du péché, mais à cause de la parole de Dieu. Déjà, vous êtes émondé, littéralement, c'est purifié, pur, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et vous savez, oui, la parole, ça amène la vie. J'ai entendu dans les prières qu'on a été engendré par la parole de Dieu. Et c'est vrai que cette parole, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'on se confie, on croit en la parole de Dieu, elle produit la vie. Et tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est aussi une épée qui tranche. Et vous savez, quand Dieu parle, ça tranche. Quand Dieu parle, ça tranche. Ça coupe. Ça sépare. Hein, Jésus dira, ne croyez pas que je suis venu amener la paix. Je suis venu amener l'épée. Car désormais, il y aura division. Quand il parle, ça tranche. Quand Jésus parle dès le commencement, à la Genèse, Dieu dit, et il y a séparation entre les lumières et les ténèbres. Dieu parle une deuxième fois, séparation. Il nous a même dit que la parole de Dieu, c'est comme cette épée, on l'a chanté, à double tranchant. Elle est tellement tranchante qu'elle tranche dans nos cœurs, les pensées, les sentiments. Elle tranche le vieil homme, et elle permet au nouveau, à l'homme nouveau de venir. La parole de Dieu, elle tranche. Jésus dira, mais dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Sanctifier, c'est quoi? C'est couper et mettre à part. Quand Dieu parle, ça tranche. Et lorsque je choisis de garder la parole de Dieu, il y a forcément, à un moment ou à un autre, l'épée qui coupe et qui enlève. Mais pourquoi? Pas parce que Dieu veut notre perte. Pas parce que Dieu s'amuse avec nous. Quand on voit le prix qu'il a payé à la croix pour nous, lorsqu'on voit le prix qu'il a payé pour nous pardonner, on comprend bien que ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais si le Seigneur tranche, si aujourd'hui il y a ces émondages, si aujourd'hui des fois on est raccourci, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il est en train de préparer le fruit de demain. Et l'émondage d'aujourd'hui, c'est la garantie du fruit de demain. Et vous savez, au final, il y a deux manières de voir le tombeau. Le tombeau, ça peut être, si vous voulez, la mort à soi ou les moments où on souffre. Ça peut être vu pour, dans le monde comme la fin de quelque chose. Mais pour le chrétien, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et au final, lorsque je persévère, lorsque j'accepte ces émondages, lorsqu'il y a ces moments où c'est dur dans la famille, c'est dur au travail, c'est dur à tel endroit, c'est dur dans l'église, c'est dur à... Et qu'à un moment, on a l'impression qu'on est comme émondé. Mais lorsqu'on demeure fidèle, malgré ces moments-là, malgré la souffrance, lorsque, malgré le fait que j'ai l'impression d'être poussé à l'extrémité, je demeure fidèle, en réalité, je ne suis pas en train de perdre. Dieu est en train de préparer le fruit de demain. Et il est en train d'œuvrer dans ma vie, pas parce que je ne portais pas de fruits, mais parce qu'il veut que j'en porte encore plus. Et les émondages, les souffrances que Dieu permet dans notre vie, il y a deux façons de les voir. Soit on les voit à la façon du monde, on a l'impression que tout est perte, tout est désespoir. Soit on les voit comme Dieu dit qu'elles sont. Elles sont des émondages pour amener beaucoup de fruits. Mais il faut les accepter. Comment faire pour porter beaucoup de fruits? La communion, les émondages, accepter. Parce que beaucoup de chrétiens acceptent la communion, mais dès que vient l'émondage, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, ça m'est arrivé en tout cas. Parce que je pense que naturellement, on n'aime pas trop la souffrance. Hein. Qui aime souffrir? Enfin, si vous aimez souffrir, il y a un souci. Mais on n'aime pas ça. Mais Dieu le permet parce qu'il nous aime et il veut qu'il y ait beaucoup de fruits et que son nom soit glorifié. Amen. Communion, émondage. Et une troisième chose que j'aimerais qu'on voit. Si on relit du verset 4 au... On va aller du verset 4 au verset 7. Vous allez remarquer qu'il y a un mot qui revient très souvent. Donc, verset 4. Demeurez en moi et moi en vous, comme moi en vous. Pardon. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient très souvent? Demeurez, demeurez. Si vous demeurez en moi. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est rester quelque part pendant longtemps. Vous avez votre demeure, c'est quoi? C'est là où vous habitez, c'est là où vous passez la plupart de votre temps. Ce n'est pas là un endroit que vous visitez, c'est l'endroit où vous restez, vous demeurez. Demeurer, c'est continuer à être dans un état. Je demeure dans un état. C'est persévérer, c'est persister. En fait, le mot demeurer, ça donne une notion de durée, de persévérance. Et pour porter du fruit, je dois persévérer. Vous savez, il y a un piège pour le chrétien qui a de l'expérience, pour le chrétien qui a des années de conversion. C'est que des fois, on a tendance à s'appuyer sur l'expérience. Vous savez, on a vécu des choses, on a vécu des moments glorieux, on a porté beaucoup de fruits, on a déjà traversé des gros émondages, on a manifesté des dons spirituels, on est à l'église depuis des dizaines d'années, depuis peut-être un demi-siècle, et on se dit, bon, j'ai porté du fruit, donc je vais en porter. Mais non. C'est pas parce que j'ai porté du fruit dans le passé que ça veut dire que j'en porterai demain. Je porterai du fruit demain si aujourd'hui je demeure, si je persévère. Quand on voit les rois, il y a les rois d'Israël, c'est dramatique, il y en a certains. Alors autant, il y en a certains, ils ont une vie, c'était pas ça. Puis à la fin, hop, ils se tournent vers Dieu. Mais on en voit d'autres, tout va bien, et à la fin, ils se détournent. On se dit, c'est pas possible. Eh oui, parce que c'est pas mon expérience qui fait le salut. C'est Jésus-Christ, le salut. Et c'est le fait que je persévère et que je demeure avec lui. Et il faut faire attention, les années passant, de ne pas croire que parce que j'ai été, ça veut dire que demain je serai. Non! C'est parce qu'aujourd'hui, je persévère et je demeure avec Jésus-Christ que alors, demain, je pourrai porter du fruit. Parce que Jésus-Christ est clair dans cette parabole, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Un sarment, même s'il a porté pendant 50 années du fruit, bah, le jour où il est coupé du cep, il ne portera plus de fruits. Parce que ce n'est pas en lui, c'est ce qu'on avait vu en premier. C'est l'œuvre de Jésus. Et il faut faire attention. Parce que quand on a des années de conversion, des fois on se dit bon, ça va. Puis on peut négliger cette communion. Mais non, il ne faut pas négliger la communion. Il faut persévérer. Persévérer. C'est dans, on peut aller lire ce texte dans Hébreux, au chapitre 10. Vous savez, l'épître aux Hébreux, ça nous parle beaucoup de la parole de Dieu. Elle commence en disant que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, et que dans ces derniers temps, il nous a parlé par Jésus-Christ. Et ensuite, l'auteur de l'épître aux Hébreux va démontrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges, qu'il est supérieur à Moïse, qu'il est un souverain sacrificateur qui, enfin, pas selon l'ancienne alliance, mais selon la nouvelle alliance. Et plusieurs fois, il nous est dit, et nous sommes appelés à persévérer. Et au verset 10, il nous est dit, chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui croient, de ceux qui continuent, qui persévèrent dans la foi. Et ensuite, il y a le chapitre 11 qui nous parle de tous ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. Et au chapitre 12, c'est là où il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alors voilà, les trois principes pour porter du fruit. Je suis dit de faire un petit moyen mémotechnique pour que vous reteniez cette prédication. Pour porter du fruit, on a vu qu'il faut être attaché au cep. Le cep, ça s'écrit C-E-P. C comme la communion. Je dois être uni, en communion avec Jésus-Christ. E, comme les émondages. Pour porter du fruit, je dois accepter ces émondages que Dieu permet dans ma vie. Et les vivre avec, dans la foi. P, comme persévérance. Je dois demeurer et persévérer. Et si je fais ces trois choses, alors je porterai du fruit en abondance. Et si je porte ce fruit en abondance, alors Jésus-Christ sera glorifié. Et si Jésus-Christ sera glorifié, ma joie sera parfaite, je serai heureux, parce que c'est lui qui sera élevé. Et comme dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, et merci parce qu'elle est la vérité. Et Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est porter du fruit pour toi. Et pas simplement porter un peu de fruit, mais porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur pour la communion que l'on peut avoir avec toi. Et merci Seigneur parce que cette communion, c'est toi qui as payé le prix pour que nous puissions être unis à toi. C'est toi qui nous as pardonné de nos péchés. C'est toi qui as effacé ce qui mettait une séparation entre nous et toi. Merci Seigneur vraiment pour ta présence. Ta présence vaut mieux que quoi que ce soit qu'il puisse y avoir ici-bas. Seigneur, merci aussi pour les émondages. Tu vois Seigneur, ces temps où on peut être poussé à bout. Ces temps, Seigneur, où on est brisé. Ces temps, Seigneur, où on est comme mis à mort. Mais Seigneur, nous voulons pas regarder ces choses-là comme le monde le voit, comme une perte, mais nous voulons le voir, Seigneur, comme un gain. Nous voulons avoir ce regard de foi. Et non pas, Seigneur, être de ceux qui se retirent en arrière, mais de ceux qui ont la foi et qui persévèrent afin d'hériter les promesses. Ce que nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ton nom soit béni. Amen.